16h. Bienvenue chez vous à Boulevard 102.1. Bienvenue chez nous dans le retour. Bienvenue dans le début de votre week-end. Si vous êtes déjà rendu à la maison, vous faites partie des chanceux. Parce que sur les routes, c'est relativement problématique. On y arrivera dans quelques secondes. Le temps de vous dire que c'est 24 degrés présentement à Québec sous le soleil. Minimum de 16 pour ce soir et cette nuit. Demain, de la pluie, malheureusement, 15 à 20 mm prévus pour la région de Québec avec un maximum de 20 degrés. Dimanche, un peu de tout, 25 degrés, percée de soleil. Nuages, 5 à 10 mm de pluie et des risques d'orage, pas pire. Hein? Et lundi, on termine ça un peu plus frais. Soleil, quelques nuages, pas d'averse, mais un maximum de 17 degrés. On disait la circulation, Audrey. Oh là là!
Ça ne fait qu'empirer, pour être bien honnête. Ouais. Je ne veux pas être porteuse de mauvaises nouvelles, mais capitale direction est. Entre Henri IV et Laurentienne, encore de bons ralentissements. Ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne que ça se passe. Laurentienne direction nord, là, dans le coin de la capitale, il y a un petit ralentissement à prévoir quand même. Robert Bourassa direction nord, entre Charest et la capitale, très au ralenti. Charest est, c'est surtout entre Henri IV et Robert Bourassa que ça se passe. Si vous êtes sur Henri IV sud, un peu après, Wilfrid Hamel, ça commence à ralentir là, jusqu'à l'entrée des ponts. Si vous êtes sur Duplessis Sud, dans la bretelle de Charest vers Duplessis, ça commence déjà à congestionner jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte également. 73, direction nord, à la hauteur de la 20, c'est difficile. La 20, justement, entre Monseigneur Bourget et Taniata, il y a encore des problèmes au moment où on se parle. Évidemment, s'il y a quoi que ce soit de plus précis, 88-971-1021 par texto.
La circulation présentée par la microbrasserie Pit Caribou. Des bières gaspésiennes authentiques de qualité exceptionnelle, parfaites peu importe l'occasion. Disponibles partout où il y a de vrais connaisseurs de bières.
Véro, est-ce que j'ai compris qu'on peut recommencer à faire du bruit à l'Académie Saint-Louis quand on a des games de football?
Effectivement, il y aura un annonceur en fin de semaine pour les matchs, pour ceux qui n'ont pas suivi la saga. La Ville avait décidé d'appliquer un règlement qui n'existe que dans ce secteur-là, que dans le coin de Vanier-les-Rivières, dans le fond, pour éviter le bruit, entre autres, lié à un terrain de football. Et finalement...
Parce que oui, il y avait des citoyens qui vivent dans une ville où il y a de la vie, qui vivent autour d'une école où il y a de la vie, qui ont chialé parce qu'il y avait de la vie à l'école la fin de semaine. Ça existe! Ils sont parmi nous.
Une réglementation qui remonte à 2007 puis qui n'avait pas tant été appliquée, vous comprendrez, là, finalement, dans la dernière heure. C'est Jean-François Gosselin, qui est responsable sport et loisirs du côté du comité exécutif, qui a annoncé qu'on avait demandé une tolérance de la part de la Ville, et ça pour toute la saison, le temps que le règlement change. Donc, ça appartiendra aux conseillères, dont entre autres Alicia Despins, qui est la conseillère de ce secteur-là, de faire la demande de changement.
Je pense que ça va se faire assez rapidement avec le tollé qu'on a eu depuis ce matin. On vit en ville, après tout.
Exact.
16h04, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé que je suis un petit peu nerveux.
Vous voilà.
Oui.
S'il te plaît.
On s'en va rejoindre notre ami Pierre Houde. Vous allez bien, Pierre?
Ah, bonjour, Denis.
Ça marche.
Bonjour, Denis. Comment allez-vous?
Ça va bien, merci, Pierre. Vous avez passé un bel été, de belles vacances?
Oui, l'été fut, ma foi, réconfortant, bien riche de toutes sortes d'événements. Et toi, tu es un peu stressé. Moi, je suis un peu insécure.
Comment?
À chaque année.
Insécure?
Non, mais je vais te dire, dans un sens peut-être différent de ce qu'on connaît dans notre métier. Tout d'abord, bonjour, Véro. Bonjour.
Allô.
Audrey. Et bonjour à tous, et surtout patience à ceux qui sont pris dans la circulation. Je vois qu'à Québec, c'est pas mieux qu'à Montréal.
Non.
Non, mais c'est que cette chronique que nous faisons ensemble, on l'appelle chronique, mais c'est pas vraiment ça, Denis. On discute tous les quatre ensemble et on espère être un peu intéressant et divertissant pour vos auditeurs. À chaque année, j'ai l'impression qu'on a fait le tour du jardin. Puis je me dis, ils vont être tannés d'entendre radoter mes mêmes souvenirs, mes mêmes histoires et tout ça. Et tu sais où j'ai trouvé un peu de réconfort il y a à peine 20 minutes?
Non.
Ça m'a donné un peu de confiance. C'est que je suis abonné aux infolettres, si tu veux, ou aux infopromotions de Joe Bonamassa. J'ai un courriel de Bonamassa à tous les jours.
OK.
Et Bonamassa, son courriel du jour, souligne et célèbre les 70 ans de la Fender Stratocaster.
Oh yes.
Bon. Et Bonamassa est tellement intéressant, c'est pas pour rien qu'on l'aime, cet artiste-là. Il dit... Vous imaginez une industrie aussi, je vais le dire en bon français, aussi pétée que les fabricants de guitares, ce qu'ils veulent vendre d'abord et avant tout, parce qu'on connaît déjà la qualité de leur instrument. Ils veulent vendre donc la nostalgie, Ils veulent vendre du rêve, mais du confort en quelque sorte, autant pour les musiciens que pour ceux qui les apprécient et qui les regardent. Et je me suis dit, wow, 70 ans déjà, une pièce d'instrument culte dans l'histoire, pas seulement du rock, mais l'histoire de la musique, dans le fond, comme l'orgue Hammond, la B3, puis oui. comme les clavecins de l'époque de Bach et tout ça. Alors, et il conclut en disant, imaginez-vous si vous êtes un grand patron de Ford, par exemple, et que la voiture Ford que vous avez conçue il y a 70 ans est encore celle qui se vend le plus 70 ans après. Alors, il dit, vous voyez, il n'y a aucune industrie plus bizarre que celle de Fender et celle de la guitare. Et je me suis dit, ben tiens, quelle belle façon de commencer une chronique, un sujet qu'on n'a jamais abordé ensemble.
C'est vrai.
Alors, je me suis dit, au moins, ça va peut-être nous permettre de passer aujourd'hui. On verra la semaine prochaine.
Pourtant, je n'étais pas très, très nerveux pour la première au niveau du contenu. On ne s'est pas parlé de l'été. Il y a tellement eu de choses à jaser. On peut prendre la musique, on peut prendre les Olympiques, on peut prendre les sports en général. J'ai quasiment le goût qu'on commence avec le plus plate et le plus tragique de tout ça, Pierre, parce que c'est très difficile à contourner, même un vendredi après-midi, une histoire qui est allée chercher tout le monde au cœur, une histoire de mariage où tout le monde se réunit dans le coin du New Jersey et ça se transforme en tragédie parce qu'un conducteur ivre qui buvait même au volant de son véhicule a fait une série de dépassements dangereux. Et il a fauché deux vies, dont celle du hockeyeur des Blue Jackets de Columbus, Johnny Gaudreau, et celle de son frère, qui est un petit peu plus vieux, Matthew. Tout le monde ne parle que de ça depuis ce matin, Pierre, une histoire humaine qui déchire le cœur de n'importe qui.
Ah oui, je me suis réveillé en état de choc ce matin parce que je me suis couché très tôt hier soir, donc je n'avais pas eu les premiers échos. J'ai trouvé ça extrêmement déchirant. Je pense que c'est le bon mot parce que tous les angles avec lesquels tu regardes cette histoire et la façon dont elle est survenue, elle est d'une tristesse inouïe. Elle est d'une tristesse inouïe dans le dénouement, évidemment. Elle est d'une tristesse inouïe sur le plan familial. Elle est d'une grande, grande, grande tristesse aussi sur le plan du responsable de cette situation. Je dis tristesse. Évidemment, c'est normal d'en vouloir, d'abord et avant tout, à un homme aussi irresponsable. Qui vient bouleverser la vie de bonnes personnes et de bonnes gens. Et je peux te dire une chose, je l'ai interviewé à quelques reprises, Johnny Gaudreau. Tu vois apparaître ce jeune homme et ce qu'il te livre en entrevue, c'est la même chose. C'est la bonté, la gentillesse, la générosité, la disponibilité. Et, mais après la révolte normale, c'est la tristesse. C'est la tristesse qu'en 2024, on a encore besoin de sacrifices humains aussi déchirant pour faire comprendre un message qui pourtant est tellement simple et tellement basique, je vais le dire avec un terme peut-être pas tout à fait correct, tellement de base en 2024. Je te dis pas qu'il y a 30 ans, Denis, on n'a pas pris le volant à plus que 0.08. C'est sûr qu'on a tous fait ça comme adultes parce qu'on était à une époque, on n'était pas mieux, on n'était surtout pas aussi intelligent, mais on le fait parce que on pensait moins aux répercussions pour conséquences. Écoute, on conduisait sans ceinture de sécurité. Mais tu te demandes comment est-ce qu'on peut encore être aussi effacé de la vie, les deux pieds sur terre.
Et Pierre, je ne sais pas si t'es au courant à quel point ça se fait encore, parce que on en jasait ce midi avec mon collègue Marceau. Lui reste en Beauce. Nous autres, on est des gens du Saguenay. À tous les printemps, il y a des gens qui font une petite fortune parce qu'ils vont aux abords de la 73 qui va vers la Beauce et ils vont aux deux extrémités du parc des Laurentides, donc dépasser Stoneham de notre côté à Québec, et ils s'en vont du côté de la Terrière au Saguenay et ils remplissent leur sac de quoi, Pierre? Des canettes et des bouteilles vides qui ont été lancées à partir d'auto, puis c'est des centaines et des centaines et des centaines. Ça, c'est la bière de route. C'est encore quelque chose, malheureusement, qui est très, très courant, trop courant, puis on voit que ça se fait encore. Tu sais, prendre une chance, ça fait encore partie, malheureusement, du vocabulaire. Puis j'espère que quand il arrive des choses comme ça, c'est une prise de conscience, parce que le gars qui a une prise de conscience après avoir fauché deux vies, elle arrive tard dans le processus, là.
elle arrive beaucoup trop tard dans le processus. Et comme je dis souvent, c'est pas d'en prendre qui est le problème. Ben, en prendre trop, ça, c'est une autre histoire. Chacun a ses doses et je veux pas commencer à juger. C'est pas d'en prendre qui est le problème. Le problème, c'est d'en prendre au mauvais moment. Ouais. Et le problème, c'est d'agir après en avoir pris. Je peux te dire une chose, c'est que ça a l'air facile, puis je veux pas paraître prêcheur, là, parce que... Mais j'avoue que moi, je me connais, Denis. J'ai de la misère à me retenir dans mon plaisir. Vous me connaissez. Je suis un amoureux de la vie. J'ai compris, il y a déjà plus qu'une dizaine d'années, que j'investis quelques centaines de dollars dans mon année. En Uber.
En taxi.
Surtout avec Uber aujourd'hui. C'est tellement plus facile. Ouais. On a des options. On a les taxis absolument, de très bons chauffeurs. Vous pouvez peut-être avoir un copain qui va vous ramener. Moi, Lynn a tendance à consommer beaucoup moins que moi. C'est elle qui prend les clés.
J'ai déjà servi de chauffeur désigné.
Voilà, Véro. donc tu connais tu connais maintenant ma philosophie
ben
là-dessus.
Oui.
Et puis en même temps, c'est tellement plus agréable de ne pas avoir à se dire « est-ce que j'en ai assez? J'en ai trop? J'en ai-tu trop? » Bon, bref, c'est assez incroyable qu'il y ait encore des situations comme celle-là.
C'est parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, Pierre, qu'ils se disent « on verra, hein, on sort à soir, on verra, le char est dans le parking. Quand tu te laisses trop de portes ouvertes, mon expérience me dit que c'est l'erreur numéro un. » Le plan de match, là, ça, c'est dur à battre. Tu sais, avant de partir, qu'est-ce que tu vas faire, en quelles circonstances.
Si tu ne prends pas ton char, tu ne peux pas revenir avec ton char.
Bon, ça, c'est la première bonne décision, peut-être, dans le plan de match, effectivement.
Mais je ne sais pas, Denis, je ne sais rien de scientifique, mais il y a beaucoup de gens qui le partagent avec moi aussi. On dirait que depuis qu'on a été confinés, on dirait qu'il y a un comportement, je ne dis pas général, parce que, en général, les conducteurs et conductrices, là, j'inclus tout le monde, bien sûr, là, se comportent très bien au volant. Mais on dirait que les échevelés le sont encore plus.
Oui.
L'impatience des gens, la rage au volant. Et j'imagine, je sais pas, j'essayais d'imaginer qu'est-ce qui peut bien se passer dans l'esprit troublé de cet homme sous hier soir, autre que l'impatience de devoir attendre deux Moses de cycliste. Tu vois ce que je veux dire, là?
Ben oui.
Et je me dis que, évidemment, l'alcool, comment dire, donc déverrouille tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même une sérieuse réflexion à faire sur les conséquences des agissements au volant. Écoute, je te dis, je ne suis pas nécessairement le plus peureux au volant. Là, puis j'adore conduire. Je suis très réveillé parce que c'est dans ma nature.
Mm-hmm.
Mais je vois des choses sur nos autoroutes, et particulièrement, Denis, je ne sais pas à Québec, là, mais sur nos autoroutes urbaines. Je prends la Ville-Marie, entre autres, avec une restriction de 70 km/h. Tu roules à 95, tu es le plus lent.
Oui.
Tu as tellement raison.
Et Mme Guilbeault, si vous êtes à l'écoute, là, ça fait des lunes que vous dites que vous allez agir sur la Ville-Marie ou sur la métropolitaine. Ben, de grâce, attendez pas qu'il y ait un Capharnaüm, parce qu'on est proche d'une tragédie. Puis les radars, là, j'ai déjà été piégé par un radar, moi. C'est pas le fun, mais qu'est-ce que tu veux? J'étais à 72 dans une zone de 50. J'ai pas failli tuer quelqu'un, là. Mais je me suis dit, ben, je prends ma pilule. Tu veux? J'ai pas regardé mon indicateur de vitesse. Alors, je pense qu'il y a tout ce phénomène de conduite sous influence, que ce soit de l'alcool ou de drogue, qui est encore beaucoup trop, je dirais pas toléré, on le tolère pas, mais qui est encore beaucoup trop appliqué, si tu veux, ou présente. Mais je pense qu'il y a aussi une certaine forme de dissuasion là, qui doit ramener à l'ordre les quelques écervelés qui souvent vont s'en tirer, ils vont mettre la vie des autres en péril. Et donc, je sais pas, tout ça m'est passé par la tête ce matin. Et puis, mais pour revenir à la case départ. Je répète, c'est tellement une bonne personne. Puis lui, il a choisi d'aller à Columbus parce qu'il était joueur autonome. Je sais qu'il a été critiqué à Calgary. Il a été critiqué par les équipes canadiennes. Il a été critiqué même par d'autres bonnes équipes. Il a dit, écoutez, on attend pendant des années d'obtenir l'autonomie. Moi, je veux aller à Columbus parce que pour moi, la famille, c'est prioritaire.
Bon.
Je veux être proche de ma famille. Je veux aller jouer à Columbus. Puis je faire tout ce que je peux en même temps, bien sûr, pour aider cette équipe-là à sortir du trou dans lequel elle est présentement. Donc, je répète, tourne ça de n'importe quel bord. C'est une histoire triste. C'est une histoire qui a bouleversé toute la communauté. Ouais. Tu sais, c'est serré, la communauté de hockey. Tu vas le voir, hein, les médias sociaux, oui. Les témoignages. Il n'y a pas personne connecté un peu à cette industrie qui n'est pas bouleversée aujourd'hui.
Pierre, je savais qu'on ferait les choses dans le désordre parce que c'est un peu notre habitude le vendredi, mais écoute, je sais que tu as eu une grosse année, puis c'est pour ça que cet été, on a comme perdu contact, on ne s'est pas jasé, on ne s'est
vacances,
pas parlé.
Hein? Ouais.
Il a fallu que je vive un petit quelque chose que là, j'ai fait, là, j'ai pas le choix, il faut que je parle à Pierre, il faut que j'y laisse un message. Mais au-delà de ça, Pierre, mon Dieu, comment tu vas? Comment ça va, Pierre?
Ah, ça va bien. Écoute, j'ai vécu un été beaucoup plus chargé que les dernières années.
Oui.
Mais c'était voulu, c'était par choix. Et d'avoir, conjointement avec RDS, pris la décision d'être chef d'antenne du bloc d'après-midi pour les Jeux de Paris a été une décision professionnelle extrêmement heureuse pour moi. Je crois comprendre extrêmement heureuse pour RDS aussi. Je suis content d'être allé à Paris, tu te rappelles, en avril, aller faire ma petite immersion. Tu sais, je te disais, j'ai le feeling que ça va m'aider beaucoup. Ça va être une valeur ajoutée, Véro, mais ça l'a été. J'étais encore plus, peut-être, enfant même dans mon émerveillement après avoir mis les pieds là où les grands sites de compétition et les grandes attractions touristiques étaient bien, bien exposés à la télévision. Et écoute, c'est sûr que souvent, mon instinct de descripteur ressortait. J'avais un peu de misère à ne pas décrire le 100 mètres, à ne pas décrire...
J'aurais voulu être là.
On a ça dans le sang un petit peu, veux pas. Hein?
Oui, mais en même temps, j'étais dans ma navette spatiale. Tu aurais dû voir ça en bas. J'avais des grands écrans, mais plein de petits écrans dans les grands écrans, tu vois.
T'avais comme tout en même temps.
Oui, j'avais accès à tout. Et puis, de temps en temps, je pesais sur la clé, puis je disais à ma productrice, Marie-Christine, puis à mon producteur, Kenny, je disais, écoutez... Vous connaissez peut-être pas Mambo Duplantis, Mondo Duplantis ou Armand, son prénom. Dit, on a un record du monde qui s'en vient. Alors évidemment, c'est Radio-Canada qui était la grande maître d'œuvre et qui avait en direct les plus grands événements. Mais je suis absolument ravi, heureux d'avoir eu ce rôle à RDS. Ça m'a ravivé ma flamme olympique. Ben, elle n'a jamais été éteinte, mais disons que ça l'a ramené à son plus haut niveau.
C'est intéressant ce que tu dis là, parce que j'ai l'impression que même nous autres, en tant que spectateurs, c'est des Jeux olympiques qui ont ravivé la flamme.
En fait, j'ai vu Denis avoir une flamme olympique pour la première fois. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble.
mais je vous l'avais dit qu'il y avait quelque chose de magique pour Paris. Quand Paris a perdu l'organisation des Jeux de 2012, je pense que c'est une combinaison de deux choses en même temps. C'est le comité organisateur de Londres qui a été excellent et c'était mené par Lord Sebastian Coe, un des plus grands coureurs de demi-fond de l'histoire. Donc, Sebastian Coe savait ce qu'il faisait, mais il avait les bons arguments parce qu'on a attribué les Jeux de 2012 pas très longtemps après le 11 septembre. Alors, toute la notion de sécurité était tellement forte et Londres a un peu démoli tout le côté charmant, le côté mélodramatique, le côté théâtral, le côté artistique des Jeux de Paris, on a réussi à le détruire avec les arguments pratico-pratiques de la sécurité. Et à cet égard, Londres a livré des Jeux parfaits en 2012 sans les dénaturer. Et je vais aller plus loin que ça. Je pense que Paris a été gagnante d'attendre à 2024. Parce que dans le contexte où on aurait donné les Jeux, si on les avait donnés, quelques temps après le 11 septembre, peut-être que Paris n'aurait pas osé organiser les Jeux avec une telle audace, mais une audace merveilleuse. Je pense d'abord et avant tout, bien sûr, aux cérémonies d'ouverture.
Ah, là, je suis content que tu nous amènes là parce que j'ai eu un frisson les 500 fois que j'ai regardé le groupe métal Gojira, que j'aime même pas, jouer sur le château avec les flammes qui revolaient de partout.
Les Marie-Antoinette.
Puis je me disais, le guts des concepteurs de la cérémonie d'ouverture de dire, on a un groupe métal qui pogne à l'international. On n'aurait pas fait ça avec Voivode au Québec, je suis sûr de
non,
ma chute.
Écoute, je me remonte à 76. On n'est pas allé très loin là, dans l'audace musicale. Mais il y avait Vic Vogel qui dirigeait le grand orchestre.
Oui.
Mais c'est à peu près tout ce qu'il y avait.
C'est
ben, j'enlève rien avec Vogel. C'était formidable, la trame sonore de Montréal. Mais on est bien loin de ça.
Puis l'audace aussi d'utiliser tous les charmes de la France, autant dans la cérémonie d'ouverture que dans tout ce qui était les sites olympiques. Puis tout ça. J'ai l'impression que tous les amateurs de sport et de culture se sont dit, hey, ça là, ça c'est des beaux jeux, puis ça c'est des jeux modernes, puis c'est les jeux qu'on avait besoin pour se remettre dedans. Parce que moi, avant même les performances sportives ou la partisanerie du Canada qu'on se retrouve une fois aux quatre ans, avant même de connaître là, le lanceur de marteau qui mesure 8 pieds 1 avec ses grands cheveux bouclés puis son petit pinch, dès la cérémonie d'ouverture, je me suis dit, hey, on a pogné de quoi, puis j'ai eu une coupe de grands frissons, puis je comprends qu'il y a eu des débats puis des échanges. Puis tout ça. Hey, ils ont réussi à faire rechanter Céline dans l'état où elle est présentement. Ça, c'est un tour de force. Puis tout le monde en a parlé. Mais moi, Gojira, c'est probablement le moment le plus glorieux de l'histoire de la musique métal au monde. Là, je veux dire, on a atteint un sommet. Puis il y avait des gens de partout à travers le monde qui disaient « Ah, mon Dieu, ça fait du bien de voir ça. Ça » on saluait l'audace des Français, on saluait le « guts », la variété, l'éventail. Parce que si on avait voulu suivre la tendance mondiale, on aurait fait 3 heures de New Country puis on aurait laissé faire le reste. Là,
mais Londres, les Jeux de Londres ont quand même fait une grande place à leur histoire rock, par exemple. Oui, sauf que les Jeux de Londres, et puis rappelle-toi les grandes fresques, la première grande fresque, celle de la construction de Londres et de l'Angleterre, puis du Royaume-Uni et tout ça, et après ça, le passage vers le Londres ou l'Angleterre moderne, ils ont laissé une grande place à leur pionnier du rock.
Il y en a.
il y en a quelques-uns dans les années 60. Mais ça a été fait dans un cadre beaucoup plus standard, dans le grand stade, au milieu. Je pense que le fait qu'on est sorti des cadres d'un stade nous a, dès le départ, ouvert l'esprit à de l'initiative et à de grands bouleversements. Moi, je vais t'avouer, Denis, à cause de mon vécu, j'en ai vécu 13 Jeux olympiques, et j'ai assisté à plusieurs cérémonies sur place. J'en ai même... animé deux, celle de Vancouver et de Londres.
T'aimerais-tu en faire d'autres, des comme ça, en direct, sur place?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que j'aime ça, parce que je me prépare, parce que j'ai reçu un héritage extraordinaire de Richard, entre autres. On les a d'ailleurs animés, les deux cérémonies à Vancouver et à Londres ensemble. Bien sûr que j'aimerais ça refaire ça. Cela dit,
je ne
porte pas un jugement. Là. Je porte
non,
pas un jugement.
Mais je te passe les commentaires que moi j'ai entendus ici à Québec, puis des gens qui savent qu'on se parle le vendredi, qui voulaient envoyer les messages. Un Pierre-Houd sur place qui chapeaute une cérémonie olympique.
Ça manquait.
Avec toutes ses connaissances, avec toute sa recherche. Moi, j'y ai pensé à quelques reprises.
En fait, moi, j'ai pensé à toi tout le long de la cérémonie d'ouverture, Pierre.
Puis il y a des auditeurs qui ont partagé ce sentiment-là à Québec, je te le garantis, fait que je t'envoie ça de ton côté. Là.
Ben c'est gentil, je l'apprécie beaucoup. Que voulez-vous, je n'y suis pour rien. Les droits de production, les droits de diffusion appartiennent d'abord et avant tout à un réseau pour lequel je ne suis pas attaché. Et à cause de toutes sortes de règles et toutes sortes de structures internes, je dois aller vers des rôles qu'on me permet de faire. J'apprécie tellement la confiance de RDS de m'avoir permis de revivre cela. On verra ce qu'il en est pour les Jeux d'hiver. On sait que la Ligue nationale y retourne.
C'est vrai.
Ce sera intéressant. Ce sera Milan pour les grands sports intérieurs. On ira à Cortina. Imagine-toi, on revient dans la vieille histoire olympique. On va à Cortina pour les sports extérieurs, les sports de glisse, les sports de montagne. Alors, ce seront des Jeux extraordinaires. J'aime beaucoup, moi, la modestie que nous ramènent les Jeux d'hiver. Hein. C'est plus familial, c'est plus modeste. Et puis après, ben écoute, mes premiers Jeux à la télé furent en 84 à Los Angeles. Si Dieu collabore, peut-être que j'irai mettre mon petit orteil à Los Angeles pour boucler ma boucle en 2028. Mais si ça ne la donne pas, que veux-tu, c'est comme ça.
Pierre, comment ça va à RDS? Ça prend-tu un scaphandre encore pour aller travailler?
Écoute, j'ai pas mis les pieds à René Lévesque et Papineau.
Ben là, t'avais donné au Grand Prix, là. C'est chacun son tour de se mouiller les bottines, là.
Oui, c'est effectivement. Mais nous, c'était. Je comprends que sur l'île, c'était un peu décourageant, mais c'était pas extrême comme on a vécu. Hey. Écoute, j'ai suivi ça à distance. J'étais en Europe pour les vacances. Et je regardais. Écoute, il y a même un chauffeur de taxi qui m'a abordé. Il a reconnu notre accent. Puis il a dit: écoutez, qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est le geyser. Alors, je lui ai raconté que c'était dans la cour de nos studios. Et il était absolument fasciné par cette histoire. Mmh. Et écoute, je n'y ai pas mis les pieds et personne n'y met les pieds parce que ça demeure un endroit encore sous-scellé.
OK.
Enfin, aux dernières nouvelles, je me reporte surtout aux propos de notre vice-présidente, Suzanne Landry, que tu as peut-être lu dans la presse le week-end dernier. Et je la cite, là. Donc, je ne sais rien de plus. Mais je pense que avant de penser à revenir là-bas, il faut d'abord qu'il y ait un grand nettoyage qui soit fait. C'est pas seulement d'assécher. Il faut aussi remplacer des équipements qui sont perdus. Tu as peut-être entendu parler de nos deux génératrices complètes. Il y a plein d'équipements électroniques qui ont été perdus, qui étaient dans les petites unités mobiles. Surtout de Nouveau et de CTV, tout ça est foutu.
Je sais que tu as de l'affection aussi pour ça, mais moi, à chaque fois que je vois des histoires comme celle-là, puis connaissant l'emplacement physique de vos stations de télévision, avez-vous perdu des archives où tout ça est numérisé depuis longtemps?
Oui, en bonne partie. Il y a des archives qui n'ont jamais existé, malheureusement, parce qu'il y a 35 ans, on n'y pensait pas.
Ouais.
Exemple, notre premier match. On le cherche.
Vous ne l'avez pas?
Ben, il y a quelqu'un qui a trouvé un petit bout, là, apparemment.
OK.
Je ne sais pas par quelle source. Mais tu sais, écoute, Télémétropole a effacé tous les craies Basile. Imagine-toi, tu remets ça aujourd'hui. C'est la brasserie Labatte qui a des vieux rubans parce que c'était le commanditaire principal, t'imagines? ça coûte trop cher, les rubans. Il faut réenregistrer par-dessus. Il n'y a pas juste RDS, là. Tu sais, comprends-moi bien.
Oui, oui.
Alors, mais c'est surtout les sous-sols, parce qu'on a un garage à deux étages et le premier niveau qui ont été fortement endommagés. Donc, heureusement, tout ce qui est en haut, je crois, en tout cas, là, je le dis sous toute réserve, n'a pas été trop abîmé. Mais moi, si tu permets, Denis, parce que je suis aussi grand amateur de technique dans notre métier, si on a réussi à avoir de la F1 en onde, la fin de semaine passée, si on a réussi à avoir des bulletins de nouvelles, si vous allez entendre et non pas voir Patrick Carpentier dimanche, parce qu'on n'a pas encore un plateau de 3 places, mais on a réussi à concevoir une cabine auxiliaire pas très loin de nous deux pour que Patrick puisse nous amener son expertise, c'est tout simplement un miracle technique qui a été fait par nos filles et nos gars à la technique.
Des magiciens, hein?
C'est plus qu'un respect, j'ai une admiration sans borne, pas juste parce qu'ils ont fait, mais parce qu'ils l'ont fait dans un temps record. Il y a des collègues qui n'ont pas dormi pendant 36 heures pour être capables de faire le transfert sur l'île des Sœurs.
Wow.
Un édifice de Belle que je ne connaissais pas et qui a des espaces à plus finir. Alors, il y a beaucoup moins de gens là-dedans depuis la COVID, comme tu sais. Puis là, apparemment, tous ceux qui sont là disent « Enfin, on a de la vie! On est tellement contents de vous avoir avec nous! » Alors donc, moi, ça m'allume beaucoup, même si on perd beaucoup de moyens, même si on n'a pas tout à portée de main. Puis vraiment, je sens que les téléspectateurs ont été très indulgents, très, très compréhensifs. Moi, ça me ramène un peu au début d'RDS, hein, des petits studios de rien du tout, puis à quelqu'un qui passe en arrière.
Surprise!
on a déjà eu un livreur de pizza, nous autres, qui cherchait son client pendant qu'on était en onde.
Pour vrai?
Ben oui, dans les tout débuts. On a eu les concierges qui sont venus passer à MOP parce qu'ils ne savaient pas qu'on était en onde.
La vraie vie!
La vraie vie, quoi. Tu vois, c'était déjà la télé-réalité.
Ouais. Pierre, j'aimerais prendre le contrôle de l'agenda de cette première conversation-là puis aller partout, puis jaser de musique puis d'un paquet d'affaires, mais les auditeurs veulent savoir. Le Canadien a fait une nouvelle acquisition controversée, on va le dire. Un échange qui a divisé. Est-ce que tu crois aux deuxièmes chances?
Ben oui, j'y crois aux deuxièmes chances. Même que je peux croire aux troisièmes chances.
Uh-huh.
Je ne cesse jamais de faire des les mises à jour de statistiques de joueurs, Denis. Il y a des joueurs qui sont en pleine éclosion ou en deuxième éclosion. Il y en a beaucoup dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que depuis qu'on est ouvert aussi aux problèmes psychologiques de certains joueurs,
oui.
Et à la pression qui parfois fait craquer des joueurs, peu importe les raisons, je pense qu'il faut y croire plus que jamais. Ce joueur-là, Patrick Laine, est encore jeune. Ce joueur-là a sombré dans une... Enfin, il n'a pas donné trop de détails, mais on peut penser qu'il a sombré dans un très grand inconfort personnel pour un athlète. Il fait probablement partie de ces athlètes qui ont eu du succès très jeune et qui, dès la première adversité, ont une réaction un peu de panique ou une réaction d'implosion. Et moi, je suis tout à fait content de cette transaction, d'autant plus que... Et Jordan Harris était devenu un de mes préférés, je te le souligne, là.
Ouais.
Quand tu parles de jeune homme intelligent, mm-hmm. brillant, impliqué, j'ai rencontré ses parents parce que tu sais qu'il est, des deux souches ethniques. Hein, Jordan Harris, il n'est pas noir très foncé, mais il a vraiment deux parents, des deux grandes souches, et deux soies ses parents, tellement gentils. Et donc, moi, je suis très peiné de le voir partir, sauf que je regarde après avoir fait mes notes. J'ai déjà tout fait mes notes, incidemment. La saison peut commencer, je suis prêt.
Là, je te reconnais.
on avait trop de jeunes défenseurs, il fallait faire de la place. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait de l'air, de l'espace là, pour les Lane Hudson et puis pour Logan Mayhew. Il faut donner plus de responsabilité à Goulet. Il faut intégrer Jack Eye. Parce que qu'est-ce que tu veux? Ça prend quelqu'un de solide et de dur dans une équipe. Alors, il y en avait trop, Denis. Alors, globalement, ça faisait l'affaire de Don Waddell. En plus, on récolte un bon choix de deuxième ronde. Et puis, en même temps, ben, on a peut-être une piste d'amélioration rapide par rapport à un plan de reconstruction là, très, très, très étagé. Alors, moi, je suis tout à fait à 100% derrière. Mais là, si on s'en reparle le 8 février, peut-être qu'on ne dira pas même chose.
Là, c'est ça. Moi, j'avais tracé l'avenir de Patrick Laine. J'ai lu dans mes lignes de main personnelles.
Tes feuilles de thé?
Oui, effectivement. J'ai bien tiré sûr, ça au tarot. Là. J'ai mélangé
c'est
tout ça.
C'est très populaire.
J'ai tiré le tarot sur une planche de Ouija. Là. J'ai vraiment fait la totale. Et je me disais, il va connaître deux matchs hors concours consécutifs du tonnerre. On va recommencer à parler de la Coupe Stanley à Montréal. Puis je disais aux gens, mais rendu au mois de novembre, on va avoir du fun. Ben, tu sais comment est-ce qu'on est à Québec, Pierre? Là?
Oui, mais je vais te dire le contraire. S'il fallait qu'ils connaissent deux matchs ordinaires en pré-saison, oh, je vois venir d'ici.
Ça va être l'inverse.
Le troc, hein?
c'est pas un certain Carey Price qui avait déjà dit « Voulez-vous respirer? Ce sont juste des matchs pré-saison. »
Chill out!
Bon, voilà. Alors, donc, il va falloir être patient. L'autre facteur, c'est que... probablement que ton deuxième trio va être avec un joueur qui n'était pas là jusqu'ici, Patrick Laine, avec un joueur qui n'a à peu près pas joué depuis deux ans, Kirby Dach. Puis là, la grande question, c'est qui complète le deuxième trio? Ça, c'est le grand débat. On pourra en débattre jusqu'à demain matin.
Ouais.
Est-ce qu'on donne une autre chance à Josh Anderson? Est-ce que c'est Alex Newhook? Parce que là, on a trop de joueurs de centre. Alors, c'est vraiment... Moi, je vais t'en tirer une, moi, qui vient de loin. Ça pourrait peut-être être Yoel Armia.
Pourquoi pas?
Ah, pourquoi pas? t'es fin de me dire ça. Je pensais que tu allais me dire que j'étais complètement cinglé. Mais
non, j'aimerais ça que tu reviennes la semaine prochaine.
Mais pourquoi pas, Yoel Armia? Non, je reviendrai quand même. mais pourquoi pas Armia, qui a été beaucoup plus convaincant, qui a commencé à comprendre son rôle et qui, avec Dach et Laine, tu t'imagines ce trio-là, toi, les trois colosses? Parce que Laine, c'est pas un petit gars. Là. Puis c'est pour ça que je dis, paniquez pas. Les grands et gros joueurs, ils se développent quand, en général? Ils commencent à éclore quand? Au mois de novembre.
Mm.
C'est très rare que ça sorte des blocs au mois d'octobre. C'est comme Usain Bolt. Usain Bolt, il traînait ses savates jusqu'au 40e mètre. À partir du 42e, là, il commençait à se déployer comme un satellite. Là, il partait. Alors donc, attention, mais c'est une très bonne acquisition. Moi, je suis très enthousiaste. Et ce qui m'emballe, c'est qu'on va faire deux matchs très prématurés dès le 14 et le 15 septembre.
Ben oui.
On a des matchs de recrues entre les recrues du Canadien et celles des Maple Leafs. Alors, RDS a choisi de présenter ces matchs-là au Centre Bell. Alors, ça va nous mettre dans le bain dans quelques semaines à peine.
Pierre, au-delà de la job, qu'est-ce qui t'a fait triper cet été? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer cet été? Y a-t-il quelque chose que tu as le goût de partager avec nous autres que tu as vécu pendant la période estivale?
Ah, c'est une très bonne question. Y a probablement rien de plus particulier que une certaine, comment dire, donc, une certaine quiétude, une certaine paix que j'avais besoin de retrouver. Très tôt dans l'été, on a porté Paul en terre.
Ouais.
Ça nous a émus, ça nous a bouleversés, mais en même temps, ça nous a, je pense, amené une certaine conclusion, une certaine quiétude. Le voyage que j'ai passé avec Lynn après les Olympiques a été extraordinaire. On était comme deux adolescents en voyage. Ça a été super.
Vous êtes allé où, Pierre?
On est allé sur la Côte d'Azur. Et on l'a fait en touriste un peu, mais on l'a fait aussi avec du grand repos. Puis on a joué le jeu de Monaco. On n'est pas riche, là, mais on a fait semblant d'être riche.
Ça, c'est le fun, une fois de temps en temps.
Oui, oui, oui. Alors, on a quand même... On s'est imprégné. J'adore Monte-Carlo. Puis, écoute, à chaque fois que j'y vais, c'est mes cellules F1 qui ressortent.
C'est clair.
Alors, je revois toujours, après Sainte-Dévote, la montée vers le casino. Je me dis, mais ils sont fous. Ils sont incroyables, ces pilotes-là, pour passer à cette vitesse-là. Puis tu vois le virage de l'hôtel. Puis deux fois, notre chauffeur de taxi a été assez gentil pour nous faire passer dans le tunnel. Là, Lynn était tout impressionné, tout émerveillé. Je dis, imagine-toi, ils vont à 300 là-dedans, Lynn. Et puis après ça, je ne sais pas, pour bien des gens, c'est très cliché, je ne sais pas de vous vendre ça, mais puisque tu me poses la question, ça a été un peu ça, mon émerveillement. Puis la boucle bouclée a été la fin de semaine passée, quand Michel, ma fille, que vous connaissez, évidemment,
oui,
a eu sa troisième collation des grades.
Mais celle-là,
la vraie de vraie.
Cette fois-ci, c'est la bonne, là. C'est la dernière.
La bonne, l'ultime, la dernière, la vraie de vraie. C'était un moment magique, mais puisque c'était déjà la troisième, c'était moins les émotions à fleur de peau, c'était plus le recul, l'observation de ma fille qui va avoir 30 ans au mois de janvier. C'est comme une autre étape. Bref.
La fierté aussi.
Ah, la très, très grande fierté, bien sûr. Et fierté, comme je dis souvent, Audrey, pas d'elle, oui, bien sûr, d'elle, mais fierté pour elle, parce que c'est elle qui a fait ce parcours-là et qui l'a choisi et qui l'a mené à bien. Alors, écoute, j'ai joué 12 trous de golf. J'ai pas fait de moto parce que je l'ai vendu. J'ai pas fait d'avion parce que je l'ai vendu. C'est ça. C'est un été plate, mais j'avais besoin de ce genre d'été pour me remettre sur le piton. Et là, je te dirais, je vis mes derniers moments de deuil présentement. Je voyais pas venir la rentrée médiatique. Et là, Paul est très, très proche de mon quotidien, à tous les jours.
Ah.
Et ça m'a amené à quelques larmes cette semaine. J'ai été pas mal tout seul cette semaine. Je combattais la grippe. Et puis, mais je suis de plus en plus serein avec ça.
Écoute, Pierre, je vais faire ce qu'on fait d'habitude dans cette chronique-là, c'est-à-dire je vais prendre quelque chose de très personnel que je devrais te dire en privé, puis je vais te le garrocher en onde. La dernière fois qu'on s'est parlé au mois de juin, je trouvais que tu avais de l'air fatigué. J'étais inquiet un peu, puis je voulais que tu prennes soin de toi. Puis je te l'ai texté beaucoup, je te l'ai dit beaucoup, autant dans les chroniques que dans des messages vocaux. Puis là, je te retrouve, puis je vais te dire, bien franchement, je suis soulagé parce que tu as de l'air en forme, tu as de l'air bien, tu me surprends en me disant que tu es en train de combattre une grippe parce que, sérieux, ton bluff est parfait, là, tu as de l'air top shape. je suis content de te retrouver.
Merci, Denis. Moi aussi, je suis très heureux de vous retrouver. Mais j'ai rapidement compris que ça allait pas être un deuil comme les autres.
Ouais.
J'ai rapidement compris qu'il allait avoir des phases. Et que ça risque de durer encore très longtemps. Mais je ne sais pas, cette semaine, j'ai replongé dans de la nostalgie, puis ça m'amène dans tout le spectre avec Paul. Je répète qu'on n'était pas, on ne se fréquentait pas beaucoup parce qu'on n'avait pas le temps, mais on était très, 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 très caricatural ensemble, très caricaturaux. On était, pour ne pas dire psychotronique. Et puis, y a des choses qui m'ont ramené aux larmes cette semaine.
Ouais.
Parfois, c'était rire aux larmes. Parfois, c'était vraiment des larmes d'émotion. Ça te ramène aussi, Denis, dans ta propre vie d'homme qui vieillit. Alors, ça, je t'en ai parlé. Ça fait quelques années que je te prépare le terrain en te disant que la différence entre la quarantaine et la soixantaine, c'est pas dans ta tête. Je te dirais que je me sens plus jeune à 67 ans que je me sens depuis très longtemps.
Mm-hmm.
Mais malheureusement, autour de toi, il y a plein d'événements qui te rappellent là où tu en es rendu dans ta vie. C'est pas nécessairement des événements tragiques comme la mort de ton frère. C'est pas nécessairement, mais je vais te donner un exemple. Mon bon ami Sam Rosen des Rangers.
Ouais.
Sam, c'est sa dernière année. Puis ça m'a touché quand j'ai reçu son courriel parce que je me dis, mon Dieu, il reste qui dans mon entourage? De ma génération, je deviens probablement le senior des 32 équipes dans la Ligue nationale. Alors, tout ça m'a ramené beaucoup à ma vie personnelle, mais à la vie avec Paul. Puis Paul aurait eu 70 ans le 25 août, fin de semaine passée. On aurait pu faire un beau party. À la place, j'ai écrit un petit message sur Facebook. Tu vois ce que je veux dire? Alors, mais t'apprends, t'apprends à composer avec ça, mais t'apprends aussi, il le faut. Il faut que t'apprennes à mettre ça au bon endroit dans ta vie. Puis il faut que tu te donnes le droit à toi d'apprendre de ça et de vivre ta propre vie. Pierre. Si Johnny Gaudreau pouvait revenir 10 secondes, probablement qu'il serait le premier à dire « J'ai maintenant compris, vivez pleinement à chaque jour. Ouais. » Et t'en viens heureux d'être rendu à 67 ans, mais parce que t'es bien dans ta tête, t'es serein, puis le corps suit encore pas mal, merci, ben t'as envie d'en faire encore un bout, tu sais. Alors, c'est... Faut que tu apprennes à faire l'équilibre avec tout ça.
Pierre, on est à l'aube d'une fin de semaine de 3 jours. C'est une belle opportunité pour vivre à fond, puis en profiter, puis dire au monde qu'on aime, qu'on les aime donc, puis essayer de faire un petit extra-crémage à ce niveau-là. On est les gens qui restent, nous autres. C'est la responsabilité qu'on a, je pense, dans des événements comme ça, de rebondir, puis d'envoyer de l'amour, puis du positif partout autour.
Et puis, Denis, je crois plus que jamais à l'importance de la radio. Hey, je pensais que tu allais m'amener sur nos grands bouleversements à Montréal. Ça
Mon
marche.
Dieu Seigneur! Le pire, c'est que...
Écoute, je suivais ça depuis la Côte d'Azur.
Mais oui.
J'ai failli prendre le premier avion puis m'en venir me dire « Est-ce que je peux vous aider? »
Ça fait longtemps que ça n'a pas bougé de même.
Écoute, j'ai vu tous ces grands retours et ces grandes annonces puis je me suis dit « Mon Dieu, si ton frère était encore avec nous autres, il aurait trouvé une case horaire. »
Ben, c'est sûr. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Ben, moi, j'ai pensé la même chose. Je me disais... Mais tu sais quoi? Moi...
Oh, je t'aime, Pierre!
Wow.
Regarde, j'aime tout le monde. Je n'ai pas d'ennemis. On a des concurrents, mais on n'a pas des ennemis.
C'est bien ça.
Ce que moi, j'applaudis, pas j'apprécie, j'applaudis, je le disais à Lynn, enfin, on a des étincelles de concurrence. Là. On a des étincelles de choix pour les auditeurs.
Ouais.
On a des options. En autant que ça ne polarise pas le débat à un niveau encore plus grand que ce qu'on connaît, moi, j'applaudis à tout rond. Écoute, ne serait-ce que Masbourian, Lagacé, Dumont, dans l'offre radiophonique le matin, moi, je me dis, qui est gagnant? Il n'y a que des gagnants.
Ah oui, absolument.
Il n'y a que des gagnants. Vous avez 3 personnes brillantes, intelligentes, qui ont du vécu, qui sont bien entourées, qui ont d'excellents collaborateurs. Moi, évidemment, j'ai été élevé dans la concurrence CKAC, CJMS, Télémédia, Radio Mutuelle à l'époque, Denis. Mais maintenant, je ne suis plus impliqué là-dedans. Je le vois de l'extérieur. Je me dis, enfin, on a d'autres options de radio parler à Montréal. On va peut-être commencer par rattraper Québec un jour.
Ben là, on est quasiment jaloux parce qu'habituellement, la radio qui fait jaser puis qui fait réagir à la grandeur de la province, c'est la radio de Québec. Et là, c'est à Montréal que ça se passe. Puis les grands combats, puis les grandes rivalités. J'ai trouvé ça rafraîchissant. On a eu la chance... TVA est en vase clos habituellement, mais on a eu la chance de parler avec Mario Dumont avant qu'il commence sa nouvelle émission matinale. Puis l'excitation qu'il avait, je la connais. Je veux dire, je l'ai vécu à plusieurs reprises, puis je me disais, tabarnouche, il prend ça au sérieux, puis il prend ça à cœur, puis il a hâte, puis il a même dit que c'était son plus grand défi depuis la politique. Je trouve ça excitant. C'est une radio qui fait réagir, mais attention, Pierre, le diable, des fois, est dans les détails, mais le bon Dieu aussi. Et t'es probablement pas au courant que maintenant, à Montréal, chez vous, tu vas avoir la chance d'écouter. Je suis un petit peu jaloux, j'en conviens, parce que ça faisait partie de mon bucket list personnel. C'est un rêve que j'avais. C'est pas moi qui va le réaliser. C'est des gens plus jeunes et vraisemblablement plus talentueux. Le premier show réseau à partir de Québec appartient à ma collègue Audrey Pinchot.
Non!
Et les matins de fin de semaine, au 99.5, tu vas pouvoir t'installer à 7 heures le matin...
Pendant que je m'en vais faire la F1?
Oui!
Oui! Et écoutez le Rock and Chill d'Audrey Pinchot 99,5 à partir de Québec.
Ah, Audrey, mais là, vraiment, je suis tellement heureux, tellement fier. Ça commence quand?
Ça commence demain matin.
Demain matin, 7h.
Ben voyons donc, je m'en vais sur l'île des Sœurs.
De 8h à 11h, demain, je serai en onde. Mon Dieu, là, j'ai la pression, là.
8h, ben oui, mais là, lève-toi donc, plus de bonheur, 8h. Je suis rendu à 8h.
Ouais, ouais. Ben, à Québec, c'est à 7h. Si tu veux, tu peux te brancher sur l'application.
Bon, OK. Ben, je vais essayer. Je vais rester dans l'auto 10 minutes pour entendre ton ouverture.
Le pire, c'est qu'elle fait du rock, mais les versions acoustiques, les versions épurée. C'est un show qui ressemble à Travail fort pour ce show-là. Moi, quand j'ai su que c'est cette émission-là qui allait être diffusée à Montréal, j'étais tellement content pour Audrey.
Ah, bravo!
Puis je suis content pour Pierre aussi.
Ben, merci.
Ah, écoute, moi, je vais t'avouer que et peut-être que c'est la conclusion. Je sais pas, je te suis. Là. C'est toi qui es le chef d'antenne. Tu vois, il y a tout ça à Montréal. Il y a même les radios musicales qui ont ajouté à leur offre parler.
Mais oui.
Peut-être qu'il était temps qu'on comprenne que des Spotify et des Apple Music et tout ça ont réglé une partie de l'univers musical. Peut-être que ça prend aussi, comme on le faisait à l'époque, à CMGL, à CKMF, à C'est quoi, dans les grandes stations de radio de musique. Il y avait aussi des voix et des propos qui étaient intéressants. Alors, c'est comme si ça secouait le pommier, puis ça réveillait tout le monde. Et moi, j'applaudis ça parce que, comme vous le savez, je suis d'abord et avant tout un enfant de la radio avant d'être un enfant de la télé. Et je conclurai cependant, j'ai l'impression d'être un politicien en campagne. Je conclurai cependant, mes amis, que malgré tous ces bouleversements, je ne fais de la radio qu'à un seul endroit depuis plusieurs années.
Ah.
Et c'est à Boulevard 102 avec vous.
Vous avez mon vote, Monsieur Wood. Pierre, c'est un plaisir de te retrouver. T'as pas idée. On t'envoie plein d'amour à partir de Québec. Puis on reprend ces jasettes-là le temps que tu veux.
Un des grands prix les plus excitants en fin de semaine.
Oui.
Ne le ratez pas à Monza. C'est le circuit que je rêve de visiter après, quand je serai à la retraite.
Mm.
C'est déjà dans les plans. L'hyper rapide circuit de Monza. Les vitesses de pointe aujourd'hui, 356 km/h. Il y a un nouveau pilote. On a mis Sargent dehors chez Williams. Ça s'annonce spectaculaire. Et c'est le Grand Prix le plus court de la saison. Donc, vous n'aurez pas beaucoup de temps à perdre dimanche, là, si vous voulez regarder le Grand Prix d'Italie. Donc, demain matin, on est en onde à 9h45 et on est en onde à 8h30 dimanche.
On va être avec vous autres. Merci beaucoup, Pierre.
Salut, bon grand week-end. Soyez prudents. Et surtout, réfléchissez avant de prendre le volant. Bye.
Bye, Pierre. Pierre. Allez, Pierre.
Merci beaucoup. Salut. Plein d'amour. Notre ami Pierre Houd. 16h48.
M'ennuyais.
Oui, moi aussi. Je pense lui aussi un petit peu. Ça se peut-tu?
Ça n'a pas de bon sens.
Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est un beau, je le dirai jamais assez, c'est un beau privilège, la connexion qu'on a bâtie avec Pierre Houd au fil des années, puis le fait qu'il se donne en toute transparence, là, je pense que vous l'avez réalisé, là, ça nous fait du bien. On apprécie ça énormément. J'espère que vous autres aussi. Puis je le sais, là, de par les réactions et ainsi de suite. Vous êtes arrivés dans le char. Il restait 10 minutes. On vient de faire 50 minutes de radio ensemble. Là. Fait qu'on va tout... Audrey, on va être en mesure de mettre ça, j'imagine.
Ah, mais je mets ça dans les prochains
parfait.
Instants.
OK. Ça va être disponible sur l'application, évidemment, et au blvd.fm. Courte pause, on revient.